RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui à Nice. Retour sur ce jeudi 14 juillet 2016, jour de fête nationale en France. À Nice, donc, dans le sud-est du pays, 30 000 personnes sont rassemblées sur la promenade des Anglais, une avenue de 7 km située le long de la Méditerranée. Des vacanciers, des Niçois assistent aux feux d'artifice tirés chaque année depuis la mer. Mais vers 22h30, un camion blanc de 19 tonnes s'engage sur la promenade des Anglais et fauche la foule sur plus de 2 km en 4 minutes et 17 secondes. Mohamed Laouesh Boulet, l'auteur de cette attaque, tue 86 personnes, dont une dizaine d'enfants. C'est à ses morts et à leurs proches que l'État rend hommage ce samedi à Nice en présence de François Hollande. Un hommage national qui devait avoir lieu ce vendredi, 3 mois jour pour jour après l'attentat. Mais la cérémonie a été repoussée à cause des mauvaises conditions météo. Pour les familles des victimes, en tout cas comme pour les Niçois. Le temps a passé, mais il n'a pas effacé les blessures. Nice, vivre après l'impensable, un grand reportage signé Alice Posicki.
Sur la promenade des Anglais, les flâneurs, les cyclistes et les joggeurs ont repris possession des lieux. Assis sur un banc, un jeune musicien russe joue du balalaïka. Face à lui, le bleu azur de la mer Méditerranée offre un spectacle exceptionnel. Pourtant, les rares fois où Sarah Toukabri vient ici, elle ne peut s'empêcher de poser son regard sur le bitume.
Quand je passe devant la promenade, je vois des traces de sang encore qu'il y a sur le sol et j'arrive pas à comprendre en fait déjà comment est-ce que les personnes puissent passer et marcher dessus. Enfin, il y a pas longtemps, il y avait un corps qui était au-dessus. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de grave, quoi.
Le 14 juillet dernier, Sarah était présente sur la promenade des Anglais. La jeune femme de 21 ans, étudiante en psychologie, profitait du feu d'artifice avec sa famille. Elle raconte le moment où tout a basculé.
Ça s'est passé tellement vite. On n'a pas eu le temps de le voir arriver. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de gens devant nous que c'était pratiquement impossible. C'est vraiment à la dernière minute qu'on l'a vu. Et voilà, le temps de se retourner, de lancer un petit cri, que ça y est, en fait, le camion était passé, c'était... Il y a eu un petit silence de 2 secondes, en fait, les gens ont arrêté de courir, du coup. Pendant, mais 1 seconde, 2 secondes, même pas. Tout le monde s'est regardé, puis là, les gens se sont mis à hurler, à courir dans tous les sens, c'était la panique. Puis en plus, chacun cherchait sa famille, donc c'était tout le monde se pousse, tout le monde se bouscule. Il y a quelqu'un qui a bousculé ma petite sœur, moi, il y a quelqu'un qui, en passant, m'a tapé l'épaule, donc du coup depuis j'ai des douleurs à l'épaule et donc voilà, j'ai été blessée pas par le camion mais par les personnes qui, pris de panique en fait, se sont mis à courir dans tous les sens.
Ce soir-là, Sarah a perdu son père, Mohamed Toukabri, sa tante, Laurence Sarraoui, son petit cousin, Yanis Sarraoui, et sa petite cousine âgée de 2 ans, Léana Sarraoui. 3 mois après le drame, elle évite toujours la promenade des Anglais, qu'elle appelle, comme tant d'autres Niçois, la prom.
J'ai du mal maintenant à marcher dans de grandes étendues comme ça, comme la prom. J'ai du mal. Puis la prom, pour moi, ça évoque trop de mauvais souvenirs. Je ne peux plus y retourner, en fait, pour l'instant. J'y arrive pas. Déjà, rien que là, de le voir au loin, mon cœur se... Voilà, j'arrive pas du tout à retourner sur la prom. Et puis en plus, voir les traces de sang, ça serait le coup de grâce pour moi. Je ne pourrais vraiment pas. Non.
Depuis la perte de leurs proches, Sarah, sa mère Adjer et sa petite sœur Inès essaient d'aller de l'avant. Mais la blessure est encore là, béante.
En fait, on essaye de ne pas en parler, déjà. On se dit, allez, on essaye de ne pas en parler. Mais ben, voilà, dans la journée, on est obligé d'en parler, en fait. Ça ressort naturellement, le sujet revient naturellement, on est obligé d'en parler. On n'a pas passé une seule journée, en fait, je crois, sans en parler. Même pas. À chaque fois, on est obligé d'en reparler plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il y en ait une de nous qui se sente vraiment mal et qu'on dise « Allez, s'il vous plaît, on change de sujet, on parle d'autre chose. » On parle d'autre chose et puis finalement, petit à petit, on commence à revenir dessus. Donc, c'est un peu... On en parle tout le temps, en fait, finalement. Puis aussi, il y a les choses qu'on doit faire au quotidien, les rendez-vous aussi qui nous le rappellent tout le temps aussi. Des organismes à prévenir, voilà, qu'il y a eu un décès. Enfin, voilà, c'est tout, en fait, au quotidien nous le rappelle.
Le 14 juillet, la course folle du tueur aura duré 4 minutes et 17 secondes, faisant 86 morts et plus de 430 blessés.
On sait à peu près qu'il y a 33 000 personnes sur la promenade, si je me souviens, mais il y en avait vraiment 10 000 qui étaient proches du camion. Que fait-on de ces 8 9 000 personnes qui étaient quand même là, qui rentrent, qui ne s'inscrivent pas dans un processus de soins et pourtant qui ne vont pas bien?
Christophe Chambon est ostéopathe à Nice. Il a lancé un collectif baptisé Solidarité Ostéo 14 juillet. Partout en France, 250 praticiens se sont engagés à offrir gratuitement leurs soins à toutes les personnes victimes de cet attentat.
On a eu une première vague qui est arrivée instantanément. Après, il y a eu une petite accalmie. Et début septembre, fin août, début septembre, alors là, ça a repris de plus belle parce qu'il y a des gens qui se disent avec le recul qu'ils n'arrivent pas à gérer. Ils se rendent compte, ils ont pris sur eux. Ils se sentent des fois pas assez victimes, on va dire. Ils n'osent pas consulter. Il est là le problème. Ils n'osent pas y aller. Quand vous leur demandez pourquoi vous avez mis autant de temps, c'est qu'ils vous disent qu'ils ne se sentaient pas assez touchés au début. Ils pensaient que ça allait bien, qu'ils n'en avaient pas besoin non plus. Et puis qu'ils ne voulaient pas parasiter le réseau pour des gens qu'on aurait peut-être plus besoin. Et en fait, ces gens-là ne vont pas bien quand même. Hein. Ils ne vont pas bien du tout même. Et donc là, on a une vague qui arrive à 2-3 mois après... de gens comme vous et moi, mais qui étaient là-bas et qui ont tout vu et qui ont lutté pour leur survie. Donc, ils se sont mis dans un mode de défense, de réaction de survie, d'instinct primitif, on va dire. Et ça provoque des dérèglements du système neurovégétatif, de plein de systèmes. Le corps se met dans un mode particulier et il faut essayer de désamorcer un peu cette cocotte minute qui est prête à exploser.
Après le 14 juillet, la sécurité à Nice a été renforcée. Sur la promenade des Anglais et dans les rues du centre-ville, les militaires patrouillent. À pied, à vélo ou à cheval, la police est elle aussi plus visible. Mais ça ne suffit pas à rassurer Serge Landré, un Niçois de 28 ans, qui habite dans le quartier de l'Ariane, à 10 km au nord-est de la promenade des Anglais.
Je suis pas tranquille. J'ai peur que si je vais en ville, qu'il y a toujours un connard qui arrive avec sa voiture qui écrase les gens. Et j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie qu'on dise que voilà, ma fille elle est morte ou je suis mort. J'ai pas envie de ça. J'ai envie que ma fille elle grandit normalement. Donc voilà, maintenant j'ai une crainte d'aller en ville. Et je vais y aller tout doucement, je vais essayer d'affronter cette crainte. Ça c'est sûr, mais je préfère prendre mes distances d'un sens.
Lorsque Serge évoque l'attentat, il parle de traumatisme, il parle aussi de peur. Ces mots reviennent souvent lorsque les Niçois mentionnent le 14 juillet. Les cheveux courts, couleur auburn, Marie-Eva ne cache pas son inquiétude.
J'ai toujours peur, j'ai toujours un flash qui me vient quand je rentre dans Carrefour TNL, un endroit où Nice étoile, quand je vois qu'il y a pas beaucoup de monde, je me dis que ça peut arriver n'importe où, alors que je n'avais jamais pensé à des idées noires comme ça. Maintenant, quand mon fils part au lycée, je me dis ça peut arriver à mon fils, ça peut m'arriver à moi. Alors que non, j'avais pas ça avant.
Pourtant, ni Serge ni Marie n'étaient présents sur la promenade des Anglais le soir de l'attentat. Cela n'écarte pas pour autant le risque de séquelles, explique Emma-Sophie Ayat, psychologue clinicienne à l'association Montjoie qui accompagne les victimes du 14 juillet.
Cet événement traumatique a des effets. Qu'on ait été sur la promenade ce soir-là ou que la personne n'ait pas été sur la promenade ce soir-là, elle se sent affectée du fait de vivre dans la ville qui a été touchée. Hein, y a comme ça une espèce d'empathie ou de sentiment même parfois de culpabilité de ne pas avoir été présent ce soir-là sur la promenade des Anglais. Et c'est un motif de consultation.
Les jours suivant l'attentat, les Niçois ont fleuri la promenade de bouquets et de messages de soutien. Aujourd'hui, les bougies, les mots, les centaines de jouets d'enfants ont été déplacés au pied d'un kiosque à musique à deux pas de la promenade des Anglais. Le temps a passé, un peu comme les couleurs des ours en peluche sur le sol. Deux femmes marchent lentement, l'une porte de grandes lunettes de soleil rondes, l'autre est habillée d'un tailleur couleur lilas. À 74 ans, Monique Dahan et Marie-Paul Chamac sont venues se recueillir.
Vraiment pour nous c'est l'horreur. C'est l'horreur de voir tous ces jouets d'enfants qui ont été tués, qui sont là. Écoutez, j'en parle et ça me fait froid. C'est vrai qu'il faut se souvenir, mais ça fait mal. Nous, Niçois, ça nous fait très mal. Et maintenant, je vous dis très sincèrement, en ce qui me concerne, je suis revenue d'Espagne le 1er septembre. Depuis le 1er septembre, je viens m'asseoir en face de la mer. Je fais le vide. Pourtant, j'ai une vie de famille extraordinaire. J'ai mon mari, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai des arrière-petits-enfants. Mais il y a toujours ça qui nous hante maintenant. Et nous avons peur de tout. C'est ça l'histoire.
Et vous avez peur de tout, c'est-à-dire ?
Oui.
Ah ben vous le savez.
Ben on n'ose pas le dire.
Vous le savez.
On n'ose pas le dire. C'est quelque chose que nous gardons en nous.
Après quelques minutes, les deux femmes finissent par mettre un mot sur leur peur.
Les musulmans.
La discussion, c'est quoi ? C'est quoi ? Vous ouvrez la télévision, c'est quoi ? Voilà, les guerres, les machins, les tueries, les... Il n'y a pas eu qu'à Nice, hein ? Nous montons dans le tramway, ben non, c'est pas ça. Et on a peur de faire une réflexion, et on a peur de tout. On a peur de faire lever un enfant. Vous croyez que c'est une vie, ça ?
Fatima Zenou fait ses courses au marché. Elle a de grands yeux marrons, porte un hijab gris qui couvre ses cheveux et tombe légèrement sur ses épaules. Depuis l'attentat, Fatima dit remarquer les regards, sombres ou fuyants, dans le tramway ou dans les rues du centre-ville de Nice.
On a fait une sortie, on était sur la promenade des Anglais en groupe, de 4-5 femmes voilées, on est parti monter au château. Il y a une dame qui faisait son, son footing et elle nous a poussé. Oui, elle nous a poussé, elle n'a pas dit pardon, elle n'a rien dit, et voilà. Et sinon, on est passé aussi, elle nous a dit, vous faites, tous ces gosses que vous traînez, vous les faites pour qui ? C'est des futures bombes. Personnellement, j'ai rien dit parce qu'elle ne m'a pas parlé comme ça, elle ne m'a pas parlé à moi-même, mais c'est vrai qu'on n'était pas bien.
Mais ce genre de remarques, vous ne les aviez pas avant le 14 juillet ?
Il y en avait, mais c'était plus caché, alors que maintenant, on ose dire ça sans se cacher, au fait.
Selon Yvan Gastaud, historien spécialiste des migrations méditerranéennes, l'attentat du 14 juillet a fait l'effet d'une catharsis sur certains habitants de la ville et de sa région.
Il y a peut-être l'idée selon laquelle les événements du 14 juillet sont un déclencheur, une sorte de possibilité qui ouvre la porte aux propos qui étaient peut-être contenus, maintenus, et qui aujourd'hui s'expriment avec plus de force. Et cette porte ouverte, en quelque sorte, il a fallu un événement dramatique pour que peut-être elle mette en évidence le fait qu'à Nice, peut-être plus qu'ailleurs, alors Nice, le sud-est, enfin le sud de la France, la frange méditerranéenne, exprime une forme de racisme exacerbé par rapport au reste de la France. Alors c'est lié à une histoire, hein. C'est lié à la composition aussi de la population de la ville. Nice est une ville cosmopolite, c'est une ville de brassage. On l'a souvent un peu oublié. Ce brassage est un brassage qu'on a beaucoup présenté par le haut comme étant un brassage des élites. Mais c'est aussi un brassage des ouvriers, des travailleurs. Et ce brassage, c'est effectivement l'importance de la migration. Une migration qui a été, pour des raisons liées au tourisme, un peu oubliée, un peu délaissée dans le discours local, mais une migration qui est quand même bien réelle si on regarde les chiffres. Pendant la période des 30 Glorieuses, dans les années 40, 50, 60, l'arrivée importante de travailleurs venus du Maghreb est un fait essentiel, puisque ces travailleurs ont construit, ont ouvert des chantiers, ont travaillé, et ils représentent une population qui s'est enracinée. Hein. Difficilement enracinée, parce qu'elles ont, comme dans beaucoup d'autres lieux, la vie a été en bidonville. À Nice, il y avait un très grand bidonville. Et puis ensuite, elle s'est répartie dans la population, mais souvent avec des malentendus, souvent avec un regard plutôt négatif. Et une vision des populations venues du Maghreb un peu contrariée, pour ne pas dire souvent raciste aussi, qui n'est pas considérée comme étant partie prenante de l'entité Côte d'Azur, de l'entité Nice.
À la fin de l'été, plusieurs villes de la Côte d'Azur ont décidé d'interdire le port du burkini, le maillot de bain intégral musulman. Nice n'a pas fait exception. Malgré la polémique et l'avis du Conseil d'État, la ville a décidé de maintenir son arrêté. Sur la promenade des Anglais, Michel Pivetti promène Gypsy, le chien de sa petite fille. Lorsque cette niçoise repense à l'épisode du burkini, elle se met en colère.
Moi, je vais vous dire une chose, et c'est vrai. Moi, j'ai de la haine, et je le cache pas, et je le dis, parce que je trouve que c'est un manque de respect. Après ce qu'on venait de passer, les morts, il y a quand même un temps de deuil, et on recommençait à voir les histoires de plage, les burkas et tout ça, et qu'ils n'arrivent pas, ces personnes-là, à dire, bon, on va respecter, c'est normal, ils viennent d'avoir un traumatisme, ils en ont peur, on ne va pas s'afficher, on va les respecter. Non, ils veulent nous imposer leur loi.
Il, c'est qui ?
Les musulmans veulent imposer leur loi sur les burkas, sur les voiles, sur les trucs. Non, on est en France. C'est pas normal qui ne s'intègrent pas alors que la France leur a ouvert les portes. Il faudrait qu'à un moment, on leur fasse une éducation.
Et ça, vous le pensiez déjà avant le 14...
Depuis toujours. Parce que, justement, si je vous dis mon petit gré à moi, de petite, j'ai vu la guerre, moi, là-bas.
Là-bas, c'est l'Algérie. Michel y a grandi jusqu'à l'indépendance du pays, avant de partir avec sa famille pour s'installer en France. D'abord à Marseille, puis à Nice, en 1964. Comme elle, 80 000 rapatriés d'Algérie s'y sont établis. Yvan Gasteau est historien des migrations méditerranéennes.
On peut considérer qu'il y a là un écho lointain, mais un écho quand même à la décolonisation, à la guerre d'Algérie. Tout simplement parce que Nice, comme beaucoup d'autres villes, mais Nice aussi, est beaucoup a accueilli une population qui a été concernée par la guerre, hein, une population de rapatriés qui ont été victimes de cette décolonisation et qui sont venus habiter pour beaucoup à Nice pour retrouver un univers plutôt... proche de celui qu'il pouvait être le leur au départ. Et on sait que cet accueil était compliqué. Et aujourd'hui, un certain nombre de ces populations vivent la présence de l'islam, la question de l'immigration avec beaucoup de difficultés. Pas tous, évidemment, hein, mais une partie. Donc il y a un poids qui est à ce niveau-là important. Et quelque part, se recrée, se retisse à Nice des relations qui avaient pu exister à l'époque coloniale.
Trois mois après le 14 juillet, Nice porte toujours les stigmates d'une ville blessée. Mais la vie a repris son cours, les terrasses retrouvent leurs clients, le centre-ville, ses notes de jazz, et avec elles souffle comme un air de réconfort. Nice, vivre après l'impensable, un grand reportage d'Alice Posicki, réalisation Swal Kedir.
Bonjour Alice Posicki.
Bonjour Charlotte.
Nice a été touchée comme Paris et pourtant les réactions en France après ces deux attentats ont été radicalement différentes.
Et surtout côté politique, à Paris il y a eu au moins pendant quelques jours une tentative d'union nationale. À Nice, dès le 15 juillet, donc au lendemain de l'attentat, la polémique éclate. La droite reproche à l'État de ne pas avoir fait le nécessaire pour lutter contre le terrorisme depuis 2015. Autre controverse, lancée cette fois-ci directement par l'ancien maire Les Républicains de Nice, Christian Estrosi. Elle porte sur le dispositif de sécurité de la promenade des Anglais au soir du 14 juillet. L'élu parle de mensonges d'État au sujet de la présence de la police nationale. De révélation en révélation, la passe d'armes entre la mairie de Nice et le gouvernement a duré plusieurs semaines. Il n'est resté plus rien de l'Union nationale que l'on a pu voir au lendemain de l'attaque contre la rédaction de Charlie Hebdo, par exemple.
Vous parlez de la sécurité à Nice sur la promenade des Anglais. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ?
Il y a des travaux qui sont en cours actuellement pour sécuriser cette immense avenue. La mairie prévoit notamment d'installer des bornes anti-intrusion. Elle promet aussi qu'à l'issue de ce chantier, les conditions de sécurité seront optimales pour les futures manifestations. Mais la municipalité a aussi annoncé qu'il n'y aurait plus aucun grand événement organisé sur cette promenade des Anglais, en tout cas pas jusqu'au 14 juillet 2017. Alors cela ne veut pas dire qu'ils seront annulés. Pas question de fragiliser l'économie liée au tourisme. Mais l'édition 2017 du célèbre carnaval de Nice ou celle de la non moins célèbre course cycliste Paris-Nice n'auront pas lieu sur la promenade des Anglais.
Et justement, les touristes ont-ils fui Nice comme le craignaient les commerçants après le 14 juillet ?
Eh bien, le mois de juillet a été compliqué pour le secteur touristique. On est autour des 20% de baisse du chiffre d'affaires. En août, la baisse a été plus légère, entre 5 et 10%. Et depuis le mois de septembre, il y a un nouveau souffle. Le tourisme redémarre peu à peu. Pour compenser les pertes, un fonds exceptionnel de 2 millions d'euros a été dégagé pour tous les établissements touristiques situés dans l'hypercentre de Nice.
Et où est-ce qu'on en est concernant l'indemnisation des victimes ?
Alors en ce qui concerne les familles endeuillées comme Sarah que l'on entend dans le reportage, l'indemnisation va prendre du temps, ces familles le savent. La difficulté, elle porte surtout sur la qualification de victimes. Le fonds de garantie doit faire face à de très nombreuses demandes d'indemnisation. Mais comment déterminer parmi les 30 000 personnes présentes qui est victime et qui ne l'est pas ? L'attaque n'a pas causé que des blessures physiques, mais le fonds exige des preuves du traumatisme psychologique. Il faut que ce traumatisme soit avéré. En tout cas, cela va prendre beaucoup, beaucoup de temps, même si François Hollande a prévu de réformer ce fonds et qu'il a évoqué ses traumatismes psychologiques dans son discours aux Invalides. C'était en septembre dernier, à l'occasion de la journée d'hommage aux victimes du terrorisme.
Et donc, ce samedi, hommage national à Nice. Vivre après l'impensable, votre grand reportage, Alice Posicki, à réécouter comme tous les jours sur RFI.fr. RFI.